France Info.
Bonjour Vladimir Cosma.
Bonjour Élodie.
Vous êtes un compositeur, violoniste et chef d'orchestre franco-roumain. Vous avez composé la musique originale de plus de 500 films du cinéma français, notamment durant les années 70, 80 et 90, parmi lesquels des comédies comme Le Grand Blond avec une chaussure noire, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Aile ou la Cuisse, L'As des As, on pense évidemment à Belmondo, ou La Chèvre, ou des films plus dramatiques comme Diva, Le Bal ou La Gloire de mon père. Parmi ces musiques, les plus connues figurent des chansons comme Destinée, on pense évidemment au Soudoué en vacances, et on pense au Père Noël est une ordure, on pense à Reality, La Boom, Your Eyes, La Boom 2 ou encore à You Call It Love de L'Étudiante. Vous avez également signé des bandes originales pour la télévision, entre autres pour les séries Château-Vallon, L'Amour en héritage et Les Cœurs brûlés, la série d'animation Les Mondes engloutis ou le téléfilm L'été 36, c'est vous aussi. Vous avez d'ailleurs remporté le César de la meilleure musique originale pour Diva. Vous avez renouvelé avec Le Bal et vous avez obtenu 2 sets d'or. Aujourd'hui, du haut de vos petits 85 ans, vous allez donner 2 concerts à la scène musicale à Paris les 6 et 7 décembre prochains, accompagnés d'un orchestre symphonique avec pas moins de 180 musiciens, des chœurs, des invités surprises, sans parler des solistes. Monter sur scène, diriger votre orchestre, c'est ça votre moteur ?
Écoutez, ça représente une espèce d'épreuve, d'effort, mais qui me semble intéressante pour la musique, parce que la musique, c'est la communion avec le public. Et depuis que je suis petit, on m'a appris que je ne faisais pas de la musique pour moi, pour me faire plaisir uniquement, mais pour faire plaisir aux autres. Et quand je vois le monde devant moi qui participe réellement au concert, ça me fait un très grand plaisir et ça me donne envie de continuer.
Quand on vous voit sur scène, Vladimir, ce qui ressort, c'est votre humour. Vous avez un humour incroyable. Pourtant, vous avez vraiment le trac. Est-ce que c'est pour combattre cette timidité que vous aviez enfant qui vous a toujours un peu accompagné ?
Peut-être. Enfin, ce que j'essaie, c'est d'être moi-même et d'être sincère. Ne pas jouer à celui qui n'a pas le trac ou à celui qui a le trac, ou etc. J'essaie de devenir, et devant le public, de rester moi-même et de parler avec mes mots et avec mes idées. Et c'est peut-être tout ça qui étonne un tout petit peu parfois.
On a toujours ce petit air qui est roulé. Évidemment, parce que vous êtes né en Roumanie. Vous avez vécu jusqu'à vos 22 ans. C'est pendant votre service militaire que vous avez compris le rapport avec le public, parce que vous aviez réussi à créer un orchestre. Il s'est passé quelque chose d'important à ce moment-là.
Oui, il s'est passé quelque chose de très important, puisque en faisant le service militaire, j'étais amené à diriger mes confrères qui étaient musiciens, puisque ceux qui faisaient le service militaire étaient tous étudiants, soit au conservatoire, soit en peinture, soit au théâtre. Et moi, j'ai été nommé pour donner des concerts et pour réunir tout ce monde-là dans le but de faire un spectacle et changer un peu du service militaire proprement dit. Et ça m'a donné la première fois l'occasion d'écrire des choses pour le public, et ça m'a montré ce que c'est le public et le rapport d'un créateur avec les gens qui vous écoutent et qui vous attendent.
La musique est arrivée très vite dans votre vie. Vous êtes issu d'une famille de musiciens, père directeur et chef du plus grand orchestre de Bucarest, donc à l'époque. Même votre grand-mère était pianiste concertiste, élève d'un grand musicien. Finalement, vous étiez un peu presque condamné à faire de la musique.
Oui, exact. C'est ça ce que j'ai dit à un moment donné, que je n'ai pas choisi la musique. J'étais obligé d'en faire, puisque depuis que je suis petit, il n'était pas question de faire autre chose. Une fois, je me rappelle que ma mère a crié « Vas-y chercher du pain chez le boulanger ». Mon père immédiatement a réagi, a dit « Mais cet enfant n'est pas fait pour faire des courses ou pour acheter du pain, etc. Il doit faire de la musique s'il a un peu de temps ». Donc il m'a empêché d'aller acheter le pain que ma mère me demandait. C'était l'amour de la musique et l'obligation d'en faire.
D'en faire d'une façon assez excellente, d'aller chercher l'excellence d'ailleurs. Vous avez été très vite très doué, très fort, et vous avez choisi quand même l'instrument considéré
difficile,
comme le plus difficile au monde, le violon. Cauchemar ou rêve ?
Je l'ai choisi, c'est un grand mot. En fait, on habitait dans un appartement très petit. On n'avait pas la place pour un piano qui est l'instrument roi pour devenir musicien, puisqu'il y a l'harmonie, il y a la possibilité de composer des choses. Le violon, violon, c'est un instrument très difficile. Avant de sortir un son harmonieux, il y a des années qui se passent, c'est-à-dire pendant 2-3 ans, on n'entend que des miaulements et des choses désagréables. Et quand un son agréable arrive aux oreilles, il s'est passé déjà 3 ans ou 4 ans d'études. J'ai travaillé le violon dans ce petit appartement où il n'y avait pas la place pour le piano, et le piano est arrivé vers les 13 ans. Quand j'avais 13 ans, on a changé d'appartement et on m'a amené un piano. Et c'est la première fois où je découvrais vraiment le plaisir de la musique, des harmonies, des subtilités qu'un violon tout seul ne peut pas vous donner. Mais pour parler de violon, ça m'a développé le sens mélodique, puisque le violon, c'est la mélodie. Le violon est le chant. On dit de moi que je fais des thèmes que les gens aiment et des mélodies que les gens retiennent, et etc. Peut-être c'est grâce à l'apprentissage du violon.
Vous avez très tôt excellé dans ce domaine. À 8 ans, vous étiez déjà en train de jouer avec votre père, hein, dans des grandes œuvres, hein, je pense à des œuvres incontournables. C'est vrai qu'on se demande, enfin moi je me suis posé la question de savoir si vous n'aviez pas finalement grandi trop vite, Vladimir.
Non, on ne grandit jamais trop vite, quoi. Je suis resté tout petit et j'aimerais avoir une âme d'enfant et ne pas trop grandir. Mais le temps s'en va, que vous vouliez ou pas.
Comment vous le gérez, ce rapport avec le temps aujourd'hui ? Est-ce que vous passez autant de temps à créer quelque chose ou vous dites « je veux être plus léger parce que je veux davantage profiter de ce qui se passe aujourd'hui ?»
Écoutez, on gère le temps comme on peut. Je ne me dis pas « je vais faire moins parce que j'ai moins de temps ou je suis plus vieux ». Non, je n'ai pas ce genre de regard, mais la vie vous oblige de faire des choix et tout d'un coup de prendre une chose plutôt qu'une autre parce qu'on n'a pas le temps d'arriver. Je sais qu'aujourd'hui, je m'attaquerai pas à écrire Marius et Fanny, un opéra qui me demanderait au moins 1 an ou 2 ans de travail. Je préfère faire des œuvres plus courtes, écrire des pièces pour le concert qui durent 4 ou 5 minutes et qui ne me prennent pas autant de temps et qui sont intéressantes à faire.
Le violon vous a permis de subvenir aux besoins de votre famille qui était dans le besoin quand vous êtes arrivé à Paris. Paris, c'est très important pour vous. Vous vous rappelez d'ailleurs comme si c'était hier de cette arrivée. C'était ce Paris que votre père aimait, à qui il vouait un culte surdimensionné d'ailleurs. C'était vraiment un rêve d'enfant qu'il avait et un rêve d'adulte.
Depuis qu'il était jeune. Depuis qu'il était jeune, il avait vécu beaucoup de temps à Paris. Il a été envoyé par ses parents à Paris. Il a fait le conservatoire à Paris avec des grands professeurs comme Lazare Lévy. Il a rencontré Jean Vienner à la même occasion. Et en revenant en Roumanie, il m'a inculqué l'amour de Paris avant que j'arrive moi-même. Donc toute ma vie, ma jeunesse, je rêvais du jour où j'arriverais à Paris. Et Paris, Paris, Paris.
Nadia Boulanger vous a beaucoup aidé quand vous êtes arrivée ici en France, Vladimir. Elle vous a donné confiance en vous. Elle vous a décomplexé. Elle vous a permis de croire aux œuvres qui vous tenaient tant à cœur et d'aller gommer d'un verre de main ces œuvres classiques que tout le monde jouait entre guillemets, même si pas toujours avec le même niveau, mais elle vous a vraiment apporté ce côté décomplexé.
Oui, Nadia Boulanger a été très importante dans ce sens parce qu'elle était le plus grand professeur notoirement connu de France et même du monde entier. Le fait qu'elle m'ait accepté comme élève, elle m'a même pendant plusieurs mois logé chez elle rue Ballu dans une chambre, ça m'a donné du courage et elle m'a toujours dit « reste ce que tu es, n'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre et les musiques que tu m'as jouées quand tu es venu chez moi sont des choses qui m'ont beaucoup touché. Essaye de ne pas trop moderniser entre guillemets ta musique et de faire ce qui te plaît et ce dont tu as envie. »
Donc de vous donner confiance.
Oui, ça m'a donné beaucoup de confiance parce que moi j'essayais au contraire. Je me disais que la musique que je fais est trop directe, trop simple et j'essayais de faire des musiques un peu plus compliquées, plus complexes, etc. Elle m'a dit « mais pourquoi vous faites tout ça ?» Je lui ai dit « mais mademoiselle, je participe à des concours internationaux où on fait, si on ne fait pas une musique d'un certain niveau de complexité, on n'est pas pris en considération. » Alors elle a dit « oui, je comprends tout ça, mais essayez d'oublier tout ça et de faire ce qui vous sort du cœur. »
Ce qui vous sortait du cœur, c'était de rencontrer Michel Legrand. Vous êtes allé le rencontrer à la sortie un jour d'un concert et il s'est lié très vite d'amitié pour vous. Il vous a pris en tant qu'assistant et c'est un coup de téléphone qui va changer le cours de votre vie. Il avait décidé, Michel Legrand, d'aller vivre en Amérique et vous deviez le suivre. Et Yves Robert appelle pour lui demander de faire la composition de son prochain film, donc Alexandre le Bienheureux.
C'est exact.
Je voudrais que vous me racontiez ce moment-là parce que votre vie, elle bascule à ce moment-là.
J'étais chez Michel Legrand en train de préparer le départ en Amérique qui devait avoir lieu dans quelques jours. On était en train de régler les problèmes domestiques de notre habitation là-bas, etc. Quand le téléphone sonne et j'entends qu'on lui proposait la musique d'un film et que lui, il dit « Ah non, non, je ne peux pas le faire, je pars en Amérique, etc. » Et alors j'entends la voix de l'autre côté qui dit « Mais le jeune qui était avec toi lors du dernier film qui t'aidait, etc. Est-ce que lui, il ne pourrait pas faire lui la musique ?» Et le grand qui dit « Non, 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 il ne peut pas parce qu'il vient avec moi, on part tous les deux, donc il ne pourrait pas venir. » Alors j'ai senti comme un coup de couteau parce que tout d'un coup, il y avait la possibilité que je fasse quelque chose et ça ne se faisait pas, j'étais très triste. Et quand le coup de téléphone s'arrête, je dis à Legrand, écoutez Michel, ça serait tellement formidable que je puisse rester et faire ce film-là moi-même. Ça va durer 2 mois, 2-3 mois, mais par la suite, je reviendrai en Amérique vous rejoindre et on pourra retravailler ensemble. Et là, après une hésitation de quelques secondes, je le vois prendre l'appareil et téléphoner. Et je vous dis textuellement, il dit « Allô, Yves, j'ai un grand cadeau pour toi. Le jeune dont tu m'as parlé, qui travaille avec moi, etc., voilà ses coordonnées. Vladimir Kosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, appelle-le si tu as envie encore de lui et peut-être il acceptera de travailler pour ce film. » Et c'est comme ça que ma vie a basculé, puisqu'à partir de ce moment-là, j'ai fait Alexandre Bienheureux et puis j'ai fait tous les musiques de films d'Yves Robert jusqu'à sa mort. Une dizaine de films les plus connus, La gloire de mon père, Château de ma mère, Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, etc., etc.
C'est là qu'est né, peu de temps après, Le Grand Blond avec une chaussure noire, en tout cas la musique de film que vous allez leur proposer. C'est vrai qu'au début, ils voulaient un pastiche d'une musique de James Bond, mais comme vous avez un caractère bien trempé, Vladimir, et que vous n'aimez pas copier les autres, vous avez réussi à imposer le fait de proposer autre chose. C'est de là qu'est venue cette idée de la flûte de Pan, si emblématique, parce que la musique du Grand Blond avec une chaussure noire est un personnage à elle toute seule, qui fait partie du film, indissociable de ce film. Et la flûte de Pan, c'était justement une idée d'aller chercher un instrument qui représentait finalement les pays de l'Est.
C'est-à-dire que je partais du principe que le fait que Pierre Richard jouait le rôle d'un espion ne le condamnait pas à être un espion anglo-saxon. Il aurait pu être un espion qui vient du froid, qui vient de Russie, de Roumanie, etc., des contrées que je connais très bien et qui ont des instruments et de la musique très intéressante. D'où la flûte de Pan, instrument qui n'avait jamais été utilisé au cinéma avant moi, avant ce film-là. Donc, comme Yves Robert me disait, d'accord, mais pourquoi la flûte de Pan? Quel est le processus qui t'a amené à cet instrument-là? Je lui dis ça, ce que je viens de vous dire, et que pour moi, la flûte de Pan, ça sera une surprise pour le public, mais pas une surprise attendue. C'est une surprise inattendue, comme toutes les surprises. Et voilà que ce contraste fera naître la comédie et le comique. Mais enfin, j'étais pas sûr de l'effet que je faisais, mais j'ai pris ce risque-là. Chaque fois que j'ai fait un film par la suite, j'ai essayé de trouver un instrument ou une idée musicale qui n'est pas convenu, qui n'est pas quelque chose qu'on attend. Et c'est pour ça que quand on me dit que dès qu'on entend 2 notes de mes musiques, certains gens du public me disent « Ah, on reconnaît votre style, on reconnaît... »
Votre patte.
Voilà. Et je me dis « Mais comment ça se fait qu'ils reconnaissent mon style entre le Rabbi Jacob, la Boum, le Grand Blond avec une chaussure noire et Diva ?» Il n'y a pas tellement de lien. Où ils trouvent ce lien-là? Alors que moi, j'essaye de faire des choses le plus variées possible, etc. Et alors, ce lien vient peut-être du fait que mes musiques ont eu toujours un fond de tendresse. C'est-à-dire que c'est une musique de comédie, qui se veut de comédie, mais c'est pas du tout une musique comique. La musique du Grand Blond n'est pas une musique comique. La musique de La gloire de mon père, de Château de ma mère et tout ça, ce sont pas de musiques comiques. C'est des musiques que j'utilise dans la comédie, dans un contexte un peu différent, et en cherchant de trouver un contraste entre l'image et le film. Et c'est ce contraste-là qui va faire naître la comédie.
Vous avez toujours été dans la recherche, hein, un peu comme un laborantin, comme un artisan du son. Vous avez toujours essayé effectivement d'aller d'aller chercher des thèmes, d'aller chercher des instruments qui représentent soit un animal, soit un moment, un passage, un personnage. Il y a une anecdote incroyable pour Ravi Jacob, le réalisateur donc vous appelle en vous disant qu'il a besoin de vous. Il avait assisté à l'avant-première du Grand Blond, mais vous n'aviez pas eu de retour. Finalement, on vous appelle, on vous donne un rendez-vous sur un lieu de tournage. Ça se passe à l'aéroport. Il y a Louis de Funès qui est effectivement déjà en train de tourner quelques scènes. Et il vous annonce qu'en fait, ce que vous avez fait pour le Grand Blond, c'est pas du tout ce qu'il cherche.
Oui,
que lui, ce qu'il veut, c'est totalement autre chose.
Oui, c'est-à-dire que ça a été surprenant. Le fait que je ne connaissais pas Gérard Oury, j'étais complètement inconnu et je venais de démarrer et il m'appelle, je m'attendais à qu'il me fasse des compliments ou quelque chose et il me dit, bah, écoutez, parce que j'ai aimé ce que vous avez fait sur le Grand Blond, c'est le contraire de ça, ce que je souhaite pour le Rabbi Jacob. C'est-à-dire que je ne veux pas une musique qui a un gimmick, qui a un instrument original, qui a quelque chose. Je voudrais une musique qui montre la variété, la diversité de la population de New York à ce moment-là.
Sachant qu'il voulait vraiment la scène de la danse avec Louis de Funès, qui est incontournable de ce film Rabbi Jacob.
Oui, c'est pour cette scène-là, pour faire la musique de cette scène-là, que j'étais engagé. D'ailleurs, j'étais en concurrence avec les plus grands compositeurs français qui faisaient tous des maquettes pour cette scène de danse. Et à la suite de cette maquette, une fois qu'on a enregistré la scène, j'ai été choisi pour faire la version définitive de cette danse et ensuite j'ai été engagé pour faire la musique du film.
On va préciser d'ailleurs que ce film n'a jamais cessé d'avoir du succès, qu'encore aujourd'hui c'est un film très fort, culte, mais aussi très symbolique d'une période très compliquée. Gérard Oury a pris beaucoup de risques, hein, personne n'y croyait. Il a sorti ce film entre la guerre du Kippour et effectivement les attentats des JO de Munich. On est en 72 avec 11 athlètes israéliens qui ont été assassinés.
D'ailleurs, les choses n'ont pas tellement changé parce que maintenant, chaque fois qu'on parle de ce film, on dit on pourrait jamais aujourd'hui faire un film comme ça entre les Juifs et les Arabes. Ça créerait des émeutes, etc. Alors que ça n'a pas créé à l'époque. On disait la même chose et que ça ne crée pas parce que le film est tellement bien fait et tellement fait sans rancune, sans aucune espèce d'agressivité ni d'autre chose que ça plut aux Juifs et aux Arabes en même temps.
Sur scène, on retrouve souvent un certain Richard Sanderson. On pense évidemment à la musique de la Boom. On vous a appelé à la dernière minute pour travailler sur ce film et vous avez trouvé ce son de piano qui va réussir effectivement à conquérir le cœur du réalisateur.
On m'a appelé à la dernière minute parce qu'on souhaitait prendre Michel Polnareff comme compositeur et pour chanter la musique. Mais comme il avait certains problèmes fiscaux, il a été obligé de s'expatrier en Amérique. Il envoyait des musiques de loin, ça ne convainquait pas Pinotto qui un jour s'est énervé, mais ce jour-là était une semaine avant une scène très importante de playback où il fallait envoyer sur le plateau le thème du film, la maquette du thème du film, et que des centaines de figurants danseraient sur cette musique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai reçu le coup de téléphone, je me trouvais à Saint-Jean-Cap-Ferrat et je faisais deux films importants, L'inspecteur la bavure et Le coup du parapluie, et on m'appelle pour ce film-là, qui était aussi très important. Il y avait 10 chansons à écrire avec un thème qui était le thème principal. Et j'étais un peu hésitant et j'ai dit à la personne de la Gaumont que je ne crois pas que je pourrais le faire, que je n'ai pas le temps, que je fais ci, que je fais ça, etc. Bon. Une demi-heure plus tard, je reçois un coup de téléphone d'Alain Poiret, le patron.
Le PDG de la Gaumont,
oui. PDG de la Gaumont. Qui me dit, écoutez Vladimir, vous ne pouvez pas faire chez nous que les films avec De Funès, avec Belmondo et tout ça. Pour une fois qu'on fait un film où on a vraiment besoin de vous et qu'il n'y a pas de vedette de tout premier ordre, je vous demande de faire cette musique qu'on a besoin en urgence dans une semaine. Ce n'était plus une demande, c'était un ordre presque. Ouais, donc j'ai pas eu le temps de dire oui ou non. Je me suis mis à travailler et j'ai fait cette musique pour la scène en question qui a été prise. Et puis la suite, vous la connaissez. Ça a été pris pour le film et ça a été un succès qui n'a jamais été égalé puisque les jeunes, même aujourd'hui, depuis près de 50 ans, n'ont pas remplacé dans leur cœur l'amour qu'ils ont pour ce film et pour la musique du film.
Là, vous serez sur scène les 6 et 7 décembre prochains à la scène musicale à Paris. Votre père disait, tu sais, l'âge ne pardonne jamais. Pourtant, quand je vous regarde, vous ne vieillissez pas, mais vous grandissez. Quel regard vous portez sur ce parcours accompli alors? Est-ce que vous êtes déjà heureux de ce que vous avez déjà accompli, sachant que ce n'est pas terminé?
Écoutez, c'est des questions difficiles à répondre et mes réponses seront un peu imprécises parce que je ne le sais pas moi-même. Je pense que mon père avait raison, que l'âge ne pardonne jamais. Et dans mon cas, pourquoi le pardonner-il ? Non. Je suis le parcours du bien vouloir de mon âge. Si son bien vouloir sera là le jour des concerts, ça sera peut-être des concerts intéressants. Sinon, Dieu verra.
Merci beaucoup, Vladimir Cosma, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Les 6 et 7 décembre, vous serez donc à la scène musicale à Paris pour des concerts avec un orchestre philharmonique à ne surtout pas manquer. Merci beaucoup.
Merci à vous, Élodie. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. About you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my to dream of you close to